parmi nous pour la première fois, soyez tout spécialement les bienvenus. Vous n'êtes pas au milieu de gens qui sont un petit peu bizarres. Non, non, non. Je vous assure que nous avons les neurones qui fonctionnent correctement. Mais vous êtes au milieu de gens qui ont la foi. La foi non pas en n'importe qui, en n'importe quoi. La foi en Jésus-Christ. Mais une foi vivante, une foi active, qui produit des effets. C'est pas parce que la Bible dit avec vérité que la foi qui ne produit pas des résultats, c'est une foi morte. Et ainsi que nous l'avons entendu dans le témoignage de notre ami Aurélien, eh bien, lorsqu'on met sa confiance en Dieu, il agit dans tous les domaines de notre existence, que ce soit dans le domaine de la santé physique ou morale, que ce soit dans le domaine matériel, et puis évidemment, et c'est là ce qui détermine tout le reste d'ailleurs, dans le domaine spirituel. C'est un domaine que souvent, dans notre 21e siècle, on oublie, n'est-ce pas? Mais nous voudrions cet après-midi, justement, recentrer les choses et vous aider, vous permettre, tout au moins avec l'aide de la Bible, qui est la parole de Dieu, de vous interroger sur votre condition spirituelle, ce qui est vraiment, je le répète, le plus important. Pour cela, j'aimerais que nous lisions ensemble, s'il vous plaît, un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, et au verset 1er. Voilà. Un récit de l'évangile. Vous savez, l'évangile, c'est fiable. C'est pas un tissu de légendes, de contes agglomérés les uns après les autres. Non, ce sont des témoignages vrais, vérifiés par des témoins oculaires qui nous racontent eh bien, ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur la terre. Et donc, nous lisons à partir du chapitre 15, verset 1er de l'évangile de Marc, est écrit ceci: « Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. » Sanhédrin, c'était le tribunal suprême chez les Juifs. « Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. » Pilate, c'était le gouverneur romain, l'autorité juridique la plus élevée dans le pays. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition, c'est-à-dire dans une révolte. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir flagellé Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Voilà. Nous sommes là en train d'assister dans ce texte à ce que nous pourrions appeler le procès, tout au moins un simulacre de procès à propos de Jésus. Et vous avez vu comment, n'est-ce pas, les autorités religieuses de ce temps-là se sont liguées par jalousie, par dépit, par frustration pour demander la mort de ce Jésus, la mort de Christ. Et puis Pilate, n'est-ce pas, le gouverneur romain, était un homme fourbe, cruel, lâche aussi, n'a pas su, n'a pas voulu résister à la pression de la foule qui était là, hurlant sa haine, crucifie-le, crucifie-le, et tout en sachant bien intérieurement que Jésus était innocent, eh bien il a fait ce choix de faire en sorte que Jésus soit crucifié. Alors il est là question de cet homme, Barabbas. Barabbas, ça veut dire fils du père. Vous savez, en français, on a un proverbe qui ressemble un petit peu à ce nom qui dit tel père, tel fils. Vous voyez que vous le connaissez. Hein? Et finalement, c'est un petit peu ce que représente le nom même de Barabbas, fils du père. Bien sûr que tu es fils de ton père. Il ne peut pas en être autrement. Hein? Voilà. Tel père, tel fils. Et c'est vrai qu'aussi que si nous ramenons ce texte à ce qui nous concerne, parce que quand on lit la Bible, il faut toujours, du texte que nous lisons, s'efforcer d'en en tirer un profit, un enseignement pour ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, nous sommes fils tous, quelle que soit la couleur de notre peau, de notre premier père. Et notre premier père, nous dit la Bible, s'appelait Adam, le père de la race humaine. Et notre premier père a péché. Il a péché parce que il a désobéi formellement et en toute connaissance à l'ordre divin qui avait dit dans le jardin d'Éden, c'est une vieille histoire, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il a choisi, je le répète, délibérément toute connaissance de cause, d'outrepasser ses droits, de transgresser le commandement divin, de pécher. Parce que c'est ça le péché. Ce n'est pas un terme que les théologiens ont inventé, mais le péché, c'est prendre la direction opposée de celle que Dieu nous indique. C'est manquer le but, c'est s'engager dans une mauvaise direction. Et depuis que notre premier père, Adam, puis notre première mère aussi, Ève, qui était dans le coup, dans l'affaire, ont péché, ont désobéi à Dieu, depuis, la nature pécheresse s'est transmise, nous y revenons, de père en fils. Barabbas, fils du père. Eh bien, nous sommes tous des fils de notre père Adam, dans le sens que nous sommes tous, vous et moi, des pécheurs. Voyez ? Quand nous sommes venus au monde, il y avait, comment dire, déjà en nous ce virus, ce germe du péché. Je vais prendre un exemple. Vous savez que, malheureusement, il y a parfois des femmes qui sont atteintes de ce terrible mal qu'on appelle le sida. Et il arrive que les enfants qu'elles mettent au monde sont eux-mêmes porteurs du virus du sida. C'est affreux, mais c'est ainsi. Eh bien, voyez-vous, pour essayer d'établir une espèce de parallèle, on pourrait dire que le péché, c'est comme le sida de l'âme, qui se transmet de père en fils, qui se transmet de génération en génération. Déjà, le roi David disait ceci, « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu ou m'a enfanté dans le péché. » Ça ne veut pas dire que la mère de David était particulièrement mauvaise, ça ne veut pas dire que sa mère avait une vie pervertie, mais lorsque David s'exprime ainsi, eh bien, il nous fait part de cette réalité que le péché se trouve enraciné dans les fibres de notre être intérieur en chacun d'entre nous. Un autre texte parle de la veine, c'est-à-dire de la mauvaise manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Ce matin, j'ai entendu une prédication qui traitait de l'héritage. Eh bien, voilà un triste héritage. Nous avons hérité de nos pères cette tendance au mal, cette tendance au péché, cette tendance à la corruption, cette tendance à la violence, cette tendance à l'agressivité, à la haine, à la jalousie, etc. C'est pas difficile à vérifier. Même si vous vous efforcez d'élever vos enfants le plus correctement possible, vous allez voir qu'en dépit de tous les bons principes que vous vous efforcez de leur inculquer, eh bien le mal va apparaître très rapidement. C'est pas vrai ? On n'a pas besoin d'apprendre même un tout petit à être agressif. On n'a pas besoin de lui apprendre à se mettre en colère. n'a pas besoin de lui apprendre à être jaloux. Il n'a pas besoin. Ça vient tout seul. Alors bien sûr, quand c'est un enfant, un tout petit, ça prête à rire. Mais nous devrions peut-être pleurer plutôt que de rire. Parce que mes amis, ça ne fera que croître et embellir cette affaire. Le péché habite en chacun d'entre nous. Barabbas avait été mis en prison pour une sédition, c'est-à-dire une révolte. Vous savez, à cette époque-là, les Romains occupaient le pays d'Israël et ce peuple fier, ce peuple israélite avait beaucoup de mal à supporter le joug de l'autorité romaine et fréquemment il y avait des révoltes qui éclataient, des attentats qui se produisaient, voyez, contre tel ou tel légionnaire qui avait peut-être le tort de s'être isolé de ses camarades. Et cet homme avait été entraîné dans ces affaires-là, la révolte. Vous savez que la révolte, c'est notre lot aussi. Vous savez comment Dieu nous appelle ? La Bible dit que nous sommes des enfants de colère et des fils et des filles de la rébellion. Et ça n'est pas vous et moi contre l'autorité romaine que nous nous sommes révoltés, mais par nos péchés, nous nous sommes en fait révoltés contre l'autorité divine. C'est ça le péché, c'est défier Dieu. C'est dire en quelque sorte, eh bien, Dieu a dit ceci, mais moi je ferai autrement parce que telle est ma volonté. Ce que Dieu nous propose, malgré notre état de révolte, car Dieu nous aime, c'est de nous réconcilier. Le but de cette réunion, chers amis, c'est que vous sortiez, peut-être, même sûrement, de votre état de révolte intérieure, d'opposition à la volonté divine, pour entrer dans un état de réconciliation. L'Écriture nous adresse cette exhortation, cette invitation, cette supplication. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et puis Barabbas, il y avait aussi une autre caractéristique, c'est que c'était un meurtrier. Il avait été, nous dit le texte, avec ses collègues, avec ses complices, mis en prison pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Ah, peut-être me direz-vous, ça au moins, voilà quelque chose que je n'ai pas fait. Monsieur le pasteur, vous pouvez me dire sur tous les temps que je suis un pécheur, je veux bien le reconnaître, mais un meurtrier, certainement pas. Je n'ai ni tué, disent beaucoup, ni volé. À voir. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que cela. Parce que l'Écriture, la Bible dit quelque part que celui qui a de la haine pour son frère, il est un meurtrier. Et dites-moi, on ne le dira à personne, hein, mais entre nous, qui n'a jamais haï ? Qui n'a jamais conçu dans son cœur de rancune, de ressentiment, d'hostilité, de mépris envers qui que ce soit ? Ça n'existe pas. Avez-vous toujours eu un comportement des plus honorables envers votre semblable ? Ça n'est pas mon cas. Il m'est arrivé de haïr. Il m'est arrivé de concevoir de la rancune, d'avoir des sentiments même de vengeance. Eh bien, l'Écriture dit que quand nous concevons de tels sentiments aux yeux de Dieu, nous sommes déjà des meurtriers. Et que ces éléments-là sont contraires à la grande loi divine qui est une loi d'amour et qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous savez, d'une certaine manière, nous sommes tous des Barabbas. Sommes tous des Barabbas. Barabbas, pour ce qu'il avait fait, le meurtre, la révolte, il méritait la mort. Dites-moi, c'est le châtiment qu'il aurait dû subir et ça n'aurait été que justice. Savez-vous que c'est aussi ce que nous méritons ? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, le résultat, la conséquence, les effets du péché, c'est la mort. Quand nous lisons la Bible, nous apercevons qu'il y a en fait deux types de morts. Il y a la mort physique. Tu es poussière et tu reviendras dans la poussière. On sait que ça nous arrivera à tous. Mais l'Écriture dit qu'il y a une seconde mort, la mort spirituelle. Un jour, nous devrons comparaître devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Juge Suprême. Et l'Écriture dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même et que chacun sera jugé selon ses œuvres. Et si nous comparaissons devant lui au jour du jugement en état de péché, alors Dieu qui est juste sera amené à nous condamner et nous rejeter loin de lui dans les tourments infernaux. Je sais, c'est affreux, c'est terrible que de parler ainsi. Tourment et tourment éternel. Mais c'est une réalité. Et la Bible dit que ça, c'est la seconde mort. Mais pour revenir à notre Barabbas, si je puis dire, la chance de Barabbas, c'est que justement, nous le disions tout à l'heure, sous la pression de la foule haineuse à laquelle Pilate, le gouverneur romain, n'a pas su ou pas voulu résister, Barabbas fut échangé contre Jésus. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et la foule qui est, vous savez, influençable, hein, c'est toujours celui qui parle le plus fort qui est le dernier mot, n'est-ce pas? A hurlé, crucifie-le, parlant de Jésus. Que ferai-je de Jésus? Crucifie-le. Et c'est ainsi que Barabbas a bénéficié d'une amnistie et il a été libéré. En quelque sorte, Jésus a pris sa place. Jésus a pris sa place, la place du brigand, la place du condamné. Jésus fut crucifié et répétons-le, Barabbas fut amnistié et libéré. Voyez, je disais tout à l'heure que nous sommes tous des Barabbas dans le sens que aussi ce que Jésus a fait pour Barabbas, il l'a fait pour chacun d'entre nous. L'Écriture dit, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nos péchés. Il n'a pas simplement été victime d'une erreur judiciaire. Il n'a pas seulement été victime de la haine de la foule ou de l'injustice de Pilate. Mais ce qu'il a fait en mourant sur la croix, il l'a fait volontairement. Il a donné, il a offert sa vie en rançon, en sacrifice, nous dit l'Écriture, pour que justement par ce sacrifice, nous puissions être sauvés du péché et de ses conséquences. Et c'est ainsi que cet après-midi, mes amis, quel qu'ait été le genre de vie que vous ayez pu vivre jusque-là, quel qu'ait été ou quelle que soit la somme de péchés que vous avez accumulés au cours de votre existence, Dieu, par Jésus, vous offre son pardon. Alléluia. Dieu, par Jésus, vous offre sa miséricorde. Ainsi, je le répète, Barabbas fut libéré, relaxé, amnistié, délivré, épargné. Je ne sais pas, parce que la Bible ne le dit pas, quel genre de vie Barabbas a mené après cela. On ne sait pas. Est-ce que, quelque part, ça lui a servi de leçon? Est-ce que Barabbas a raisonné en disant « Oh, un innocent est mort pour moi, à cause de moi, à ma place, il faudrait peut-être que j'essaye d'avoir un style de vie différent de celui que j'ai eu jusqu'à présent ?» Vraisemblablement, on peut le supposer, il a mené le même genre de vie que celle qu'il avait menée auparavant. Mais si je ne sais pas quel genre de vie Barabbas a mené très exactement après cette aventure, je sais par contre, laissez-moi vous le dire en toute liberté, quel genre de vie vous devriez vivre désormais. Vous qui cet après-midi, eh bien écoutez l'Évangile. Si vous avez compris que Christ est mort pour vous, et Dieu fasse par son esprit que vous en soyez persuadés, si vous avez compris que Christ est mort à votre place, si vous avez compris qu'il a subi le châtiment que vous méritiez, il a accepté, n'est-ce pas, d'être condamné pour que vous soyez pardonné, pour que vous soyez épargné, pour que vous soyez sauvé, alors vous avez un certain nombre de choses à faire. Vous avez un choix dans lequel vous engagez. D'abord, vous devez vous repentir. Vous devez plaider coupable devant Dieu. Oh, voyez, il n'y a pas dans ce lieu d'ustensiles que l'on trouve dans certains édifices religieux qu'on appelle un confessionnal. Non, non, non. Il ne s'agit pas de confesser vos péchés à un homme, quel qu'il soit, prêtre, pasteur ou autre, mais à Dieu seul. Et c'est logique. Comment voulez-vous, mes amis, qu'un homme qui lui-même est pécheur puisse absoudre vos propres péchés? Ça n'est pas possible. Mais par contre, l'Écriture dit que si nous confessons nos péchés à Dieu, si nous les lui avouons en toute franchise, en toute sincérité, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il vous faut vous repentir. Il vous faut croire, même si, eh bien, ça défie la logique, que c'est vrai, au travers du sacrifice de Christ, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu. Ça ne se mérite pas. Ça n'est pas le résultat du décompte de nos bonnes œuvres que nous aurions pu accomplir. Mais c'est une grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Je mets ma foi dans le Christ vivant, car il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et il peut faire ce que personne d'autre que lui ne peut faire en ma faveur. Il peut plaider ma cause devant son Père céleste et obtenir en ma faveur le pardon dont j'ai tant besoin. Il vous faut croire et puis il vous faut vous engager dans une vie de vrai disciple de Jésus. Je dis de vrai disciple de Jésus parce que c'est Jésus qui doit être le centre de notre foi. J'ai plusieurs fois raconté cette histoire. Il y a un certain nombre d'années de cela, nous avions dans la famille une cousine ou arrière-cousine ou je sais pas trop quoi, enfin, elle était, n'est-ce pas, dans le pédigré familial, on va le dire comme ça, et elle était fort âgée. Je me suis dit, mais voilà, je ne lui ai jamais parlé véritablement de ce Jésus en qui je crois. Alors, j'ai décidé d'aller la trouver tout seul, voilà. J'ai fait 80 kilomètres pour aller la voir. Et je me suis assis, il m'a reçu très gentiment, il m'a vu naître, et j'ai commencé à lui parler de quoi? De religion, de signe de croix, de genuflexion, de cérémonie, de rite. Non, mes amis, de Jésus, qui pouvait seul la sauver. Et au bout d'un moment, elle m'a arrêté en me disant, mon petit Alain, je me suis dit, ça commence bien ça. J'ai ma religion. Oui, un petit peu comme quand les forces de l'ordre vous contrôlent, vous sortez votre carte d'identité, votre permis de conduire. C'était ça. Dès qu'on abordait les questions spirituelles, parce que moi je ne me souciais pas de savoir si elle était catholique, protestante ou même évangélique, il n'y en avait rien à faire. Elle était à deux pas de la mort, elle avait besoin de se préparer à la rencontre de Dieu. Alors j'étais venu lui parler de Jésus, mais j'ai ma religion. Je lui ai dit, mais je ne te parle pas de religion, je te parle de Jésus. Mais son cœur était fermé. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je l'ai quitté. Et quelque temps plus tard, eh bien, est arrivé ce qui devait arriver. Son heure est venue et elle est partie. Mais où est-elle partie? Ne courez pas ce risque. Mais cet après-midi, prenez soin de vous réconcilier avec Dieu. Ça s'appelle se convertir. Et se convertir, rassurez-vous, c'est pas changer d'obédience religieuse. C'est pas passer d'une chapelle à l'autre. Non, se convertir, eh bien c'est venir à Jésus. C'est pas changer de religion, c'est changer de vie, alléluia. L'apôtre Pierre quand même, c'est une autorité spirituelle majeure, un apôtre de Christ, n'est-ce pas? Dira ceci, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Votre seule possibilité pour pouvoir un jour entrer dans le ciel, c'est que vos péchés soient effacés. Il y a des gens qui règlent rapidement le problème, d'un revers de main, en disant, oh, vous savez, Dieu c'est le bon Dieu. Alors il saura, il comprendra certainement que la vie sur terre n'était pas facile et que de temps en temps, il fallait bien s'accommoder avec les choses. et qu'on a fait ce qu'on a pu. Non, mes amis, certes, Dieu est bon. Certes, il est plein d'amour, mais il est aussi juste. Et la Bible dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Il les pardonne, c'est pas la même chose. Et il les pardonne à la seule condition, nous l'avons dit, que nous nous repentions, que nous placions notre foi en Jésus et que nous nous engagions désormais dans une vie de disciple. Puissiez-vous vous décider à le faire sans tarder. Je vous en supplie. Il y a ici des gens qui entendent l'évangile depuis des semaines, d'autres depuis des mois, et même certains depuis des années. Ne vous accoutumez pas à cela. C'est dangereux, vous savez. Si l'on prend cette habitude malsaine d'entendre l'évangile sans jamais y répondre favorablement, alors notre cœur, petit à petit, devient de plus en plus insensible, de plus en plus imperméable à ce message. Et finalement, il s'endurcit à un tel point que la parole de Dieu ne peut plus nous atteindre du tout. Ne courez pas ce risque. Ne dites pas, il viendra un jour où certainement, je ferai ce que ces prédicateurs me disent. Encore quelques instants de réflexion, pasteur. Encore quelques jours pour que je mette les choses en place dans ma tête et dans mon cœur. Et vous allez voir ce que vous allez voir d'ici peu. Non, ça n'est pas d'ici peu. Ça n'est pas la semaine prochaine. Mais la parole de Dieu dit que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et que le moment favorable, c'est maintenant. Ouvrez votre cœur à la grâce. Et dites-lui, Seigneur, j'ai peut-être pas tout compris, tout analysé. Mais je viens à toi pour qu'aujourd'hui, tu me sauves. Accepte le pécheur que je suis. Pardonne-moi. Je réalise que toi, Jésus, comme tu le fis pour Barnabas, tu as pris ma place. En mourant sur la croix, tu as voulu faire en sorte que je sois épargné, sauvé du jugement. Alors désormais, je fais le choix, aujourd'hui, de devenir ton disciple. Seigneur, après ça, je te fais confiance. Je réalise ma faiblesse, mes incapacités, mais tu vas m'aider. Croyez-vous que nous qui marchons avec le Seigneur depuis un certain nombre d'années, nous soyons plus malins que les hommes? Certainement pas. Si nous avons pu rester dans les voies du Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons une capacité de résistance aux tentations hors du commun, une énergie redoutable, une force de caractère à toute épreuve. Non, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Et la grâce, elle nous vient en réponse à la foi que nous mettons dans la personne de Dieu, notre Père, et dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, qui veut être votre sauveur et aussi votre Seigneur. Que son nom soit béni. Prions-le quelques instants, voulez-vous ? Notre Père, notre Dieu,